Il est 8h56 minutes. Eh bien, la crise de la COVID et le confinement ont mis en lumière le manque de ressources dans les CHSLD, mais aussi le confinement a creusé un fossé entre les ce qu'on appelle les proches aidants et leur protégés jusqu'à un certain point, parce que on se souvient en plein cœur de la pandémie, au moment où on avait confiné tout le monde, les proches aidants n'avaient même pas accès, en fait, aux gens qu'ils aident de façon presque quotidienne et qui sont devenus des gens extrêmement importants dans notre système. Eh bien, il y a des gens qui veulent justement faire en sorte que on reconnaisse l'importance qu'ils ont dans le réseau, notamment Mme Jessica Roy-Desruisseaux, qui est gérontopsychiatre et professeure à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke et qui a produit un balado qui va justement mettre en lumière le travail de ces gens-là et l'importance de leur travail. Bonjour, Mme Roy-Desruisseaux.
Bonjour.
Alors, d'abord, définissons qu'est-ce que c'est un proche aidant pour que tout le monde soit à la même page.
Oui, le proche aidant, c'est la personne qui va prendre finalement la responsabilité d'aider une personne malade. Le plus souvent, ça va être en lien avec un trouble neurocognitif majeur, mais il faut voir que le proche aidant, ça peut être une personne qui va aider toute personne qui souffre d'un problème de santé, puis qui va être présent pour lui, pour le représenter, mais pour l'aider aussi à ce que ses besoins soient répondus.
Ouais, et souvent, ce sont des membres de la famille directe, hein?
La plupart du temps, c'est soit un enfant ou soit le conjoint, la conjointe qui va jouer ce rôle-là.
Bon. Est-ce que notre système, notamment dans les CHSLD, a développé une dépendance aux proches aidants?
Je dirais pas ça comme ça. On peut voir ça de l'extérieur, surtout avec la pandémie, mais en fait, c'était déjà une nécessité que le proche aidant y soit présent. Donc, ça s'est produit un petit peu parce que on a un système qui arrive pas peut-être à répondre à tous les besoins, mais le proche aidant a toujours existé, notamment à l'époque où les gens n'allaient même pas à l'hôpital, n'allaient même pas dans les foyers et s'occupaient tout simplement de leurs proches à la maison.
Oui. Non, mais parce que avant la pandémie, bien souvent, quand on s'entretenait avec des gens qui travaillent en CHSLD. Souvent, ils disaient qu'il y a des, il y a beaucoup de gens qui n'auraient jamais de visite si ce n'était pas des proches aidants, là.
Oui, ça c'est certain. Ouais. Les proches aidants sont les personnes les plus présentes. C'est pas des milieux qui sont toujours faciles à approcher. Déjà, les gens aller à l'hôpital, ils n'aiment pas nécessairement ça. Aller en soins de longue durée, ça peut être assez difficile émotionnellement d'y aller. Mm-hmm. Donc oui, les visiteurs principaux, c'est clair, sans aucun doute, c'est les proches aidants.
OK. Quelle est la reconnaissance qu'on leur donne à ces gens-là dans notre système? Est-ce qu'ils ont la reconnaissance qu'ils méritent?
Je dirais que non. Je pense que ça va varier beaucoup d'un milieu à l'autre. Il y a des milieux qui sont très, très proactifs et qui vont accueillir les proches aidants, qui vont travailler de concert avec eux. Mais il y a des milieux dans lesquels c'est beaucoup plus difficile à cause de plusieurs des problèmes qu'on a pu voir, la rotation de personnel, la surcharge de travail, le fait qu'il y ait peut-être aussi un modèle de gestion qui ne favorise pas non plus leur implication.
Ouais, mais vous le mentionniez tout à l'heure, il y a quand même des gens pour qui c'est essentiel d'avoir la présence de ces gens-là pour justement faire en sorte, notamment les gens qui ont des problèmes cognitifs, des troubles début de maladie d'Alzheimer, des trucs comme ça. Ce sont des gens qui représentent une espèce de d'apport que le personnel médical ne peut pas nécessairement donner, n'est-ce pas?
Oui, mais pour vous dire carrément, je peux pas imaginer une maladie pour laquelle un proche aidant ne serait pas nécessaire pour s'assurer des soins d'une personne.
Ouais.
Parce qu'ils sont vraiment des personnes qui les connaissent depuis tellement d'années, qui savent comment les aborder, qui connaissent leurs bons et leurs moins bons côtés, puis qui sont aussi...
Qui ont leur confiance aussi jusqu'à un certain point.
Définitivement. Ouais. Puis qui sont capables aussi de faire valoir quels sont leurs droits, quels sont leurs besoins et de se mettre dans la peau de la personne qui est soignée. Ce qui, malheureusement, comme soignant, on a des fois un petit peu plus de difficultés à faire.
OK. Là, vous produisez un balado. Pourquoi au juste avoir choisi cette forme d'expression-là? Et vous visez qui avec votre balado?
Le balado, en fait, c'est l'Université de Sherbrooke qui a décidé d'utiliser ce médium-là. Ce qu'ils trouvaient, c'était que le sujet était intéressant pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin qu'un simple texte écrit, de penser que finalement, les proches aidants, il fallait vraiment mettre ça de l'avant, puis d'y donner, de piquer la curiosité des gens. Donc, je pense que ça va être quelque chose de vraiment très intéressant, effectivement, pour qu'on pense pas juste les CHSLD en termes de COVID-19, en termes de mort, en termes de décrépitude des milieux, mais aussi de voir qu'il y a des choses qui sont belles, qui sont vivantes, qui peuvent se produire.
Et vous avez parlé à qui dans vos balados?
on a parlé à une personne qui est malade, une personne ouais. qui est une proche aidante aussi, donc qui est sa fille.
Donc, vous donnez la parole à ces gens-là?
Ouais. En fait, c'est plutôt un fond de trame. Donc, là, je suis interviewée dans ce balado-là par une étudiante en communication qui me fait détailler ce projet de recherche-là,
ouais.
dans lequel on découvre finalement qu'est-ce qui sont les besoins des proches aidants qui viennent en aide aux personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur avec des troubles de comportement. Puis, on voit une interaction qui, je vous dirais, est très, très typique de celle que j'avais avec cette famille-là, mais avec plusieurs autres familles. Donc, qui vient nous mettre un petit peu là un angle comment ça se passe quand il y a un suivi en gérontopsychiatrie avec ces familles-là.
OK. On va en écouter un extrait, juste pour savoir donner une idée de l'ambiance.
Quand la pandémie est arrivée, on n'a pas été nécessairement très, très surpris de voir comment ça s'est passé. Dès qu'on a appris que les prochains ans ne pourraient plus se rendre sur les lieux du CHSLD, on anticipait beaucoup comment ça allait se passer pour les patients parce que on savait déjà que les prochains ans participaient activement aux soins. Puis ça nous a fait voir à quel point c'était encore plus important quand on regarde en avant sur comment on veut améliorer les soins aux personnes âgées. Il faut impliquer les personnes proches aidantes dans la reconstruction de nos soins aux personnes âgées.
Alors, c'est intéressant, mais justement, parlons-en de l'impact que ça a eu. Est-ce que vous êtes capable de voir, justement, parce que les proches aidants ont été écartés de leurs proches, pendant plusieurs semaines, pendant la pandémie, est-ce que vous avez noté, que les patients avaient peut-être pris du retard dans leur... ou en fait avaient souffert de ça?
Oui, on peut voir que certaines personnes, dépendamment de leur état cognitif, se sont détériorées parce qu'ils avaient moins d'interactions humaines, moins de conversations. Il y a des gens aussi qui se sont, on pourrait dire, un peu éteints parce que même s'ils sont pas nécessairement capables d'enregistrer qu'est-ce qui se passe autour d'eux, qui sont
ouais.
pas 100% conscients de leur environnement, ces personnes-là ont encore une vie affective. Puis, ils reconnaissent encore leurs enfants. Donc, il y a ou leurs proches, leurs conjoints. Puis, on a vu des patients qui se sont plus laissés aller, qu'on pourrait dire. Ça, c'est certain. En CHSLD, c'est ce qu'on a vu le plus. Mais dans les résidences de personnes âgées, on a des gens qui avaient leurs proches aidants qui venaient, qui étaient, c'était pas des gens qui étaient aussi malades, mais qui sont devenus plus déprimés, qui sont devenus plus mêlés, qui ont eu une perte d'autonomie beaucoup plus grande qu'en CHSLD.
Bon, là, on parle de plus en plus d'une deuxième vague qui pourrait arriver quelque part cet automne. Si ça se concrétise, est-ce que vous croyez qu'il faut laisser les proches aidants continuer à aller voir les proches et non pas refaire ce qu'on a fait durant la pandémie et donc fermer l'accès?
Oui, définitivement. Je pense qu'il faut se donner les moyens de pouvoir maintenir les proches aidants. La plupart des gens qui sont présents, c'est des gens qui sont vraiment investis, qui prennent leurs responsabilités. Donc, je pense qu'on est capable d'anticiper qu'ils vont être capables de respecter s'ils ont des symptômes, de se faire tester, d'éviter de se présenter pour la grande majorité.
Et de respecter les mesures sanitaires, évidemment. Là.
Exactement. Je pense qu'on peut compter sur eux. C'est certain que ça fait peur de penser qu'un proche aidant pourrait amener la COVID-19 à nouveau dans un milieu. Mais en même temps, ça peut être aussi le personnel qui rentre la COVID-19 parce qu'ils entrent et sortent de par leur rythme de vie, puis ça, c'est normal. Donc, je pense qu'il faut penser à la vie affective des personnes âgées, mais aussi aux besoins qui sont répondus mieux, que ce soit l'alimentation, parfois l'hygiène, la mobilisation pour qu'ils puissent marcher, ces patients-là. Donc, c'est important.
Et j'allais dire, ça doit enlever aussi une certaine partie de tâches aussi au personnel soignant, n'est-ce pas?
Définitivement, ça occupe davantage les aînés aussi, ils peuvent être plus calmes aussi par la présence de leurs proches. Donc, ça, c'est certain que ça contribue à alléger leurs tâches.
Bon, il faudrait le considérer éventuellement si jamais on devait revivre la même chose qu'on a vécu ce printemps. On peut entendre votre balado comment, au juste? Il faut aller où?
Il va être disponible sur le site de l'Université de Sherbrooke sous peu. Donc, le lien n'est pas encore disponible. Ça viendra très, très bientôt. Ça va être publicisé par le service des communications de l'Université de Sherbrooke.
Madame Roy-Desruisseaux, merci d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Au revoir. Jessica Roy-Desruisseaux est donc l'auteur ou en fait participe à cette série de balados sur le site de l'Université de Sherbrooke.